Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il a remis en question le géocentrisme, une théorie scientifique ancrée dans les esprits depuis l'Antiquité. Au XVIe siècle, par ses écrits révolutionnaires, il a mis le soleil au centre de l'univers et cette découverte au centre de sa vie d'homme d'église. Je vous raconte maintenant un passionné d'astronomie qui a mis du temps avant de se faire une place au soleil, Nicolas Copernic. Nous sommes le 24 mai 1543 au nord de la Pologne, dans la ville de Frombork, sur les bords de la Vistule. C'est là qu'un vieil homme se meurt dans la pénombre de sa chambre. Âgé de 70 ans, il a vu sa santé décliner au fil des mois jusqu'à ce qu'une crise d'apoplexie ne le laisse à moitié paralysé. Alors qu'il vit ses derniers instants parmi les hommes, l'histoire raconte qu'on lui apporte l'un des premiers exemplaires imprimés de l'œuvre de sa vie. « Des révolutions des sphères célestes », c'est son titre, remet en cause une théorie ancrée dans les esprits depuis 14 siècles. Le modèle géocentrique de Ptolémée, la théorie selon laquelle la Terre est le pivot du monde, le centre de l'univers. D'après le vieil homme, un certain Nicolas Copernic, c'est en fait autour du Soleil que les astres et les planètes gravitent. Alors qu'il rend l'âme avec le sentiment d'avoir légué à l'humanité des recherches considérables, la révolution que ses travaux vont déclencher, elle, ne fait que commencer. Nicolas Copernic, l'homme aux origines de l'héliocentrisme, est arrivé sur Terre au cœur de l'hiver 1473 dans la ville de Toruń en Pologne. C'est un jeune garçon bien né au sein d'une riche famille de marchands aussi habiles en affaires qu'en politique, mais ce puits né d'une fratrie de quatre enfants connaît le malheur de perdre successivement sa mère et son père. À 10 ans à peine, le jeune orphelin est confié à son oncle, Lukas Watzenrode. Nommé évêque de Varmie par le roi de Pologne, c'est l'un des notables les plus puissants du royaume. Et le voilà désormais investi d'une nouvelle mission, celle de fournir à ses neveux la meilleure éducation possible. C'est ainsi qu'à l'âge de 18 ans, Nicolas Copernic quitte la forteresse austère de son enfance pour gagner la cité royale de Cracovie. C'est là que se trouve l'université la plus prestigieuse de l'Europe du Nord. Dans les cloîtres de la faculté, on croise le jeune homme fichu d'un bonnet carré et vêtu de l'habit noir des étudiants. Copernic y étudie les mathématiques, l'astronomie, la médecine et le droit. Il se passionne pour la perspective et se plaît à manier crayons et pinceaux pour esquisser quelques dessins. Bien que les renseignements soient réputés dans la capitale du roi Casimir IV, c'est plus au sud que l'effervescence intellectuelle est la plus intense. La péninsule italienne est en effet le berceau de la période faste qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance. Et c'est justement là qu'est envoyé Nicolas Copernic afin de parfaire son éducation. Un diplôme obtenu à Bologne, l'une des universités les plus anciennes et les plus réputées d'Europe, est la garantie d'une ascension rapide dans la hiérarchie ecclésiastique. Après un long voyage, Copernic découvre un ciel débarrassé du brouillard qui recouvre ses terres natales de l'aube au crépuscule. À Bologne, Padoue et Ferrare, Nicolas Copernic voit les étoiles et la danse des planètes. Alors qu'il devient l'assistant du célèbre astronome bolognais Domenico Novara, son regard ne quittera plus jamais le ciel. Le 9 mars 1497, à la nuit tombée, élèves et maîtres sont postés sur les toits du collège de Bologne. Équipés d'un astrolabe, d'un sablier gradué et de plusieurs instruments de mesure, les deux hommes fixent le ciel sans nuages. Au fil des heures et du mouvement des astres, l'étoile Aldébaran est soudain occultée par la lune. 3 ans plus tard, les yeux rivés dans l'espace, Copernic observera également une éclipse partielle de lune. Est-ce lors de ce séjour italien que la révolution copernicienne commence? Alors qu'il est rappelé en Pologne par son oncle, Copernic n'a qu'une idée en tête. Le soleil est le centre de l'univers. Ptolémée d'Alexandrie et Aristote ne détenaient peut-être pas la clé du cosmos, la Terre ne trône peut-être pas immobile au centre de l'univers, mais les recherches qu'il entame pourraient bousculer un acquis scientifique de taille. Copernic a besoin de temps pour étayer sa théorie. Il se lance dans la rédaction d'un premier manuscrit. Le Commentariolus est achevé vers l'an 1513 et pose les bases générales de sa théorie héliocentrique. Seuls quelques initiés en recevront une copie manuscrite. Il y écrit «
Toutes les sphères tournent autour du Soleil, qui est au centre d'elles toutes. Tout mouvement qui semble se produire dans la sphère des étoiles fixes n'est dû en réalité à aucun mouvement de celle-ci, mais plutôt au mouvement de la Terre.
Aux quatre coins de l'Europe, l'on s'interroge sur les travaux de cet homme qui remet en question des connaissances multiséculaires. Mais loin de se limiter à ses travaux d'astronomie, Copernic est appelé à d'autres devoirs. Nommé chanoine par son oncle, c'est un homme très occupé. Il est le médecin attitré de toute sa contrée, administrateur de biens et comme ses aïeux avant lui, il s'implique pleinement dans la vie sociale et politique de son pays. Et un péril vient justement assombrir le ciel de la Pologne. À l'aube de la décennie 1520, le royaume entre en guerre contre l'ordre des chevaliers teutoniques, un ordre militaire chrétien qui mène des incursions dans ses différentes provinces. Nicolas Copernic dirige alors la défense du château d'Holstein, dont il est l'administrateur. Épée en main, le chanoine défend sa paroisse jusqu'à la chute de l'ennemi. Une fois l'ordre teutonique défait, il reprend ses activités en proposant notamment une réforme monétaire, qui passe mal d'ailleurs auprès des princes et des évêques du royaume. Ce qui explique peut-être que Copernic n'ait jamais gravi les échelons ecclésiastiques. Mais malgré les obligations de la vie terrestre, les yeux de Nicolas Copernic sont toujours rivés vers le firmament. Chez lui, à Frombork, Nicolas Copernic a fait aménager un observatoire sur lequel il place des instruments astronomiques en bois qu'il a fabriqués lui-même. Mais les observations sont rendues difficiles par le ciel brumeux de cette région du Nord. Alors, à mesure que les années passent, Copernic se plonge dans les sources anciennes, dans les observations oubliées, qui lui servent à consolider ses recherches. Mais l'âge le gagne et Copernic n'a toujours pas publié les preuves mathématiques de sa théorie sur la place centrale du Soleil dans l'univers. C'est l'éruption d'un jeune homme qui va l'en convaincre. Georg Joachim Reticus a lu l'un des rares exemplaires du Commentariolus et passionné par la théorie héliocentrique, ce jeune mathématicien souhaite rencontrer son auteur et apprendre à ses côtés. En 1540, Reticus découvre un trésor, l'extraordinaire œuvre que Copernic n'a jamais publiée. Des calculs, des modèles géométriques, des dessins et des observations qui étayent la théorie développée depuis plus de 40 ans dans le secret de son bureau. Il persuade le vieux savant, cette œuvre doit être publiée. Un exposé simplifié paraît rapidement suivi en 1543 de la version intégrale de la révolution des sphères célestes. Alors que Nicolas Copernic rend son dernier souffle, l'œuvre de sa vie est enfin rendue publique. Quelques approbateurs applaudissent et l'Église toute puissante, dont on a craint la réaction, s'intéresse en fait aux recherches du savant disparu. Dans la préface de son œuvre adressée au pape, Copernic, qui, ne l'oublions pas, était un homme d'Église, avait écrit ceci.
Si cependant il se trouvait des 20 discoureurs qui, bien qu'ignorant tout des mathématiques, se permettaient néanmoins de juger de ces choses et, à cause de quelques passages de l'écriture malignement détournés de son sens, osaient blâmer et attaquer mon ouvrage, de cela je ne me soucie aucunement, et ceci jusqu'à mépriser leur jugement comme téméraire.
Pourtant, 60 ans après sa mort, le pape Paul V condamne les idées de Copernic comme contraires aux Écritures. En 1616, c'est un autre savant, l'illustre Galilée, qui subira les foudres de l'Inquisition en voulant prouver à son tour que c'est bien le Soleil qui occupe le centre de notre univers.
Europe 1, historiquement vôtre.